Alors, je suis très encouragé parce que Christine a lu exactement le verset qui est le verset d'introduction pour le message aujourd'hui. C'est exactement. Alors, ça, c'est encourageant, hein? Ça, vraiment, d'une précision, c'est très encourageant quand on passe après, on se dit, le Seigneur, il sait ce qu'il fait, hein? Et je vais relire ce verset qui, d'ailleurs, était le verset, rappelez-vous, sur cette carte que vous avez eue à Pâques. D'accord? Romains 8, c'était la carte avec la jonquille, là. Ça vous dit quelque chose? Qui nous séparera? Donc, Christine a lu un peu plus tôt, hein, mais moi, je prends à partir de là. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, c'est le titre de ce message. Et dans la continuité de ce qu'on a dit à Pâques et qui était, quel était le verset à Pâques central? C'était? Ah! Le verset central à Pâques. Pour ceux qui étaient là au culte de Pâques, donc vous êtes excusés. Vous n'étiez pas là. Mais le verset central. Ah, voyez comme notre mémoire. Hein. C'était un verset dans Corinthiens. Ah. Même Annette ne sait pas le dire. Oh là, c'est inquiétant pour moi. C'est inquiétant. Hein. Le verset central à Pâques, c'était dans Corinthiens. Ah, bravo Christophe. Ben voilà. Vraiment. C'est un peu ça. Donc c'est ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc on va aller plus loin aujourd'hui. On va aller plus loin aujourd'hui. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc je vais un peu prolonger ce message-là, ce matin. La référence, Romains 8, 35, 39. Alors ce que je vous partage ce matin, oui, Josette? Ouais? Ouais? D'accord. Ah oui. D'accord, c'est dans le même esprit. D'accord. Tu es le roi. Merci. Voilà, c'est tout à fait dans le même esprit, oui. Alors, ce que je vais vous partager ce matin est le fruit de ma lecture pendant ma semaine de vacances. Alors, vous voulez dire, tiens, c'est pas un message inspiré, il va parler de ce qu'il a lu. Moi, ça ne me pose pas un problème pour moi. Je crois à des lectures inspirées. J'ai lu ceci d'un homme de Dieu remarquable, Philippe Jauré. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui. J'ai passé un CD à l'un ou à l'autre un petit peu, et c'est ceci, voilà, cœur de champion, voilà, ça c'était ma lecture pendant les vacances. Cœur de champion, alors on va dire des plus que vainqueurs, quoi, voilà, des plus que vainqueurs. Je crois aux lectures inspirées, je crois que Dieu est capable de nous mettre à un moment, au bon moment, en contact avec une lecture, et c'est Dieu qui permet ça. D'un homme qui s'est laissé conduire, d'un homme de Dieu inspiré. Et puis cette lecture, enfin, je l'ai expérimentée ici, correspond vraiment à ce que le Seigneur est en train de me dire et de nous dire. Donc voilà, ça ne pose pas un problème, même hein, s'il y a de temps en temps, la fois dernière, c'est un message que j'ai reçu directement d'en haut. Voilà, là, c'est suite à une lecture, mais je crois que c'est tout autant inspiré. C'est en harmonie que le Seigneur est en train de nous dire. Alors j'aimerais vous parler ce matin donc de l'appel à être plus que vainqueur. avoir un cœur de champion. Voilà, c'est ça le thème. Je vais commencer par citer quelques caractéristiques des plus que vainqueurs. Vous voulez être un plus que vainqueur? Vous voulez avoir un cœur de champion? On veut être une église au cœur de champion, avec des champions, hein? D'accord, voilà. Quelques caractéristiques de ces plus que vainqueurs. C'est des gens qui connaissent l'adversité, c'est clair. C'est le contexte de Romains 8, hein? La tribulation, la persécution, l'angoisse. Bon. Ils connaissent l'adversité. Ils peuvent avoir même un ou plusieurs handicaps. Paul, qui avait cette écharpe dans la chair, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais bon, il avait un handicap. Hein? Alors peut-être, je ne sais pas si on a beaucoup qui peuvent dire ça parmi nous, vous n'avez pas souffert peut-être, je ne sais pas, je crois pas que, je crois que tous on a traversé. Mais s'il y en a un parmi nous, bah, qui pense qu'il n'a pas trop souffert, attendez-vous à souffrir. Soyez armés, c'est Watchman Nee qui le dit, hein, soyez armés de la pensée de souffrance. Oui, oui, mais non, mais c'est un message réaliste. Il faut être réaliste. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations. Vous en aurez, mais il y a la suite aussi. Hein. Prenez courage, j'ai vaincu. Donc, je crois que, non, mais attention, je crois qu'il ne faut pas prêcher un évangile triomphaliste et un évangile facile. Vous êtes d'accord? Il faut absolument pas. Je crois qu'il faut qu'on soit armé de la pensée de souffrir. Non, non. Mais c'est pas. J'affirme que c'est pas un message défaitiste. C'est un message réaliste parce qu'on est appelé à être plus que vainqueur. Hein? Vous avez déjà souffert, alors ça veut dire Dieu vous prépare et veut vous former pour avoir un cœur de champion. D'accord? Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Luc 10, 19. Donc, ils connaissent l'adversité, une caractéristique. Deuxième, ils continuent la course malgré le handicap, l'adversité. Ils continuent. Combien démissionnent? Ils continuent le cœur de champion. Il continue. Trois, justement, à propos de la souffrance. Ils ont une bonne approche de la souffrance. C'est-à-dire, ils cherchent davantage comment réagir à la souffrance plutôt qu'expliquer le pourquoi de la souffrance. D'accord? Je répète. Ils cherchent davantage comment réagir plutôt qu'expliquer le pourquoi. Ils ont une bonne approche. Une autre caractéristique, ils considèrent tout moment de crise comme une opportunité d'apprendre et de changer. Ils considèrent tout temps de crise comme une opportunité d'apprendre et de changer. 4. Ils sortent de l'épreuve plus forts et avec plus d'amour pour les autres, plus disposés à aider les autres. Ça, c'est important. Ouais. Ils sortent de l'épreuve plus forts et disposés à aider les autres. Parce que s'ils sortent et qu'ils s'enferment en Suisse, je ne veux plus voir personne. C'est pas tellement des plus que vainqueurs, ça. Hein. D'accord. Non, ils sont disposés à aider les autres. 5. Ils sont révélés plus que vainqueurs ou champions plutôt à la fin de la course qu'au début. Ouais, on les voit quelquefois révélés à la fin de la course. Jésus n'était pas révélé champion au début, méprisé, abandonné des hommes. Il n'attirait pas les regards. Il est né dans une crèche, dans une étable. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Hein? Alors, on pourrait en citer d'autres, mais Voilà, il y a ces cinq caractéristiques. Il n'y a pas un chapitre là-dessus, c'est moi qui les ai résumés en trouvant dans ce livre. Hein. Cette capacité à être plus que vainqueur a un mot pour la traduire dans le monde profane, vous savez ? Il y a un mot, c'est le mot résilience. Ouais. Définition de la résilience, l'aptitude à vaincre l'adversité ou surmonter un malheur qui aurait pu écraser une personne, mais qui l'a fait ressortir meilleur et disposé à aider les autres. Ouais, il y a un mot, c'est le mot résilience. À tel point que Dieu permet que des non-croyants puissent trouver certains, on va le voir après, des facteurs de résilience, des attitudes qui font qu'on est capable de rebondir. Mais bien sûr, on va le voir après aussi, il y a un facteur, le facteur Emmanuel qui est Dieu avec nous, qui est très important. Mais nous avons des exemples d'hommes et de femmes de renom qui ne sont pas forcément des croyants, sont des gens vraiment qui ont eu cette capacité de rebondir. Alors on va citer justement, je voudrais citer plusieurs exemples. Et le premier, je crois que ce n'est pas un exemple de non-croyant, je crois que c'est une croyante. C'est une journaliste au Liban, je ne connaissais pas, qui s'appelle May Chidiac. Bon, journaliste au Liban, écoutez ceci. Beyrouth, le 25 septembre 2005. Le 25 septembre 2005. May Chidiac, présentatrice du journal télévisé au Moyen-Orient, est victime d'un attentat. Elle a parlé librement des auteurs présumés de l'attentat du Premier ministre Hariri. On le lui fait payer. Alors qu'elle fait un détour par un monastère pour prier, avant d'aller manger en famille, un terroriste place un explosif sous son siège. Son véhicule explose et elle perd un bras et une jambe. Après de nombreuses opérations en France, des douleurs physiques et morales à affronter, elle rentre au Liban. Le 11 juillet 2006, elle est accueillie comme une héroïne. Elle a demandé à être vêtue du même costume que celui du jour de l'attentat, à rouler dans le même véhicule et aller parler à la même émission de télévision. Ces mots sont d'une grande portée. « Bonjour, on a voulu me faire taire, c'est raté. Je suis de retour. Je reprends mon travail comme avant, avec la même audace, le même désir de vérité. Rien ne me fera reculer. Ceux qui ont commis cet attentat n'ont pas gagné. Je suis encore là et le ciel m'attendra. » Voilà, un exemple de résilience. Un autre exemple de résilience, c'est cette capacité à rebondir dans le cinéma. Est-ce que vous avez vu le film « La vie est belle » ? Certains l'ont vu, oui. Ouais. « La vie est belle » avec cet acteur Roberto Benigni. Ouais. Voilà, vraiment un beau film. Chef-d'œuvre cinématographique primé au Festival de Cannes. Le grand public a ri, a pleuré, mais a surtout grandement apprécié. C'est l'histoire d'un père qui se retrouve avec son enfant dans un camp de concentration. Faisant preuve d'imagination créative et d'humour, il apprend à son fils à survivre. Il lui fait croire qu'il s'agit d'un jeu et que le vainqueur gagnera un char d'assaut. À chaque nouvelle difficulté, il utilise le jeu pour aider son fils à passer l'étape avec entrain. Le père, qui ne comprend pas l'allemand, ne veut laisser à personne le soin d'expliquer les règles du camp. Son fils doit croire à un jeu. À la fin, le père meurt, mais son fils est sauvé et il voit entrer le char américain à bord duquel il sort du camp. Il est devenu un plus que vainqueur. Pourquoi ce film a-t-il bouleversé autant de monde ? Ce n'était pas l'humour seulement, ce n'était pas un film de plus sur les camps de concentration, ce n'était pas seulement une belle leçon d'amour paternel. Ce qui a bouleversé, c'était la grande leçon de résilience que le film contient. Dans l'histoire, on a des exemples. Vous savez qu'Einstein, Albert Einstein, était incapable de lire avant l'âge de 7 ans. Ses parents croyaient qu'il était moins que normal. Et l'un de ses professeurs l'a décrit comme lent d'intelligence. Il a même été renvoyé de son école. Michael Jordan, qui est le basketteur bien connu, considéré comme le plus grand joueur de basket de la fin du XXe siècle. Et pourtant, durant son enfance, un coach lui a dit qu'il ne pourrait jamais réussir dans ce sport. Le petit Michael étant rentré chez lui a pleuré sur ce verdict. Mais l'histoire nous apprend que Michael a dépassé cela, il est devenu un grand champion. Il a déclaré « J'échoue et coup sur coup dans ma vie, c'est pourquoi je réussis. » Van Beethoven, Ludwig van Beethoven, s'est fait dire par son professeur de violon qu'il était nul comme compositeur. Van Gogh, si célèbre aujourd'hui, n'a jamais vendu qu'un seul tableau, et encore c'était à sa sœur. Ce qui ne l'a pas empêché de peindre plus de 800 tableaux durant sa vie. Walt Disney a été congédié d'un journal parce qu'on disait qu'il manquait d'imagination et de bonnes idées. Churchill a toujours perdu aux élections jusqu'à ce qu'il devienne Premier ministre à l'âge de 62 ans. Louis Pasteur, élève médiocre, a terminé 15e sur 22 dans un cours de chimie. Henry Ford a fait faillite et a échoué 5 fois avant de réussir. Voilà des exemples. Dans la Bible, il y a plein d'exemples aussi. Joseph, moi je l'aime beaucoup. Son histoire montre que Dieu l'a béni au milieu de ses souffrances. Chaque fois qu'il fallait s'élever de lui-même, Dieu permettait qu'il soit abaissé. Mais quand il était abaissé et transformé, alors Dieu l'a élevé au plus haut point. Pour le bien d'une multitude, pas pour son propre honneur. Job, bien sûr. Job a connu d'atroces souffrances. Il a perdu toutes ses richesses et le même jour, tous ses enfants. Et plus tard, il a connu une horrible maladie. Malgré tout, après toutes ces épreuves, Dieu lui a redonné bien au-delà. Il lui a accordé une postérité, un bonheur, un rayonnement bien supérieur à ce qu'il connaissait. David était un champion négligé au départ. Il était méprisé sur le champ de bataille alors qu'il allait affronter Goliath. « Tu n'es qu'un enfant », lui disait Saül et son frère, je crois. Il rassemble des gens rejetés avec lui. Et tout au long de sa vie, il doit lutter contre des menaces de mort. Tout au long de sa vie. Il a fait preuve d'une résilience extraordinaire. Il a toujours refusé l'apitoiement et se nourrit d'espérance et de foi. Alors bien sûr, on peut citer Paul, tout ce qu'il dit, et le verset qu'on a lu tout à l'heure, mais dans l'histoire de l'Église aussi. Une des premières martyrs de France, elle s'appelle Blandine, ça vous dit quelque chose? C'est une jeune Gauloise de Vienne qui était martyrisée en 177, torturée continuellement, brûlée à petit feu. Ses torsionnaires s'épuisaient, car elle retrouvait une vigueur nouvelle par la confession de sa foi. « Je suis chrétienne et aucun mal ne sera fait parmi nous. » Eusèbe relate les faits. « Nous tous qui la voyons de si faible complexion, nous tremblions pour elle. Sa maîtresse surtout, qui était du nombre des martyrs, appréhendait qu'elle n'ait pas le courage de confesser sa foi. Mais sa constance fut telle qu'elle laissa les bourreaux, du matin jusqu'au soir pourtant. » Il se succédait, qu'elle lassa les bourreaux. Du matin jusqu'au soir, se sont succédés pour la tourmenter. Et à la fin, ils s'avouèrent vaincus. La confession du nom de chrétien ranimait ses forces. Ses paroles la rendaient comme insensible à la douleur. Marie Durand, on a visité l'année dernière avec Annette sa prison à Aigues-Mortes. La tour de Constance, arrêtée le jour de son mariage, emprisonnée pour sa foi pendant 38 ans, dans la tour de Constance. Avec une aiguille, elle a gravé un mot sur la pierre que l'on voit encore dans la tour résister. Et on l'a vu ça. Sa vie est un message si fort. Alors que tous les jours on lui fait miroiter la liberté, si elle renie sa foi, elle tient ferme. On lui fait écouter les cris des enfants dehors, en lui disant que si elle abjure, Elle pourra alors fonder une famille. On la prive de toutes sortes de choses élémentaires et elle a décidé de tenir ferme dans sa foi. Le Seigneur l'assiste et elle-même vient au secours de celle qui serait prête à flancher. Elle a vu certaines de ses compagnes mourir ou perdre un enfant. Elle en a vu d'autres abjurer et partir. Mais elle a résisté. 38 ans. Et dans l'histoire de l'auteur de ce livre aussi, il y a tout un chapitre, c'est pour ça si vous voulez prendre ce livre, allez le chercher à la CLC. Philippe Jaurès lui-même, dans la période des années 2000, au début des années 2000, pendant une période, plusieurs de ses collaborateurs l'ont abandonné, ont abandonné la foi. Et au même moment aussi, tous ses enfants, au même moment, ont quitté la foi. On dit, non, je prends ma liberté. À l'heure actuelle, attention, plusieurs sont revenus. Mais vous rendez compte, pour un homme de Dieu, un pasteur, de vivre ça? Tous ses enfants, à un moment, ont quitté la foi. Ses collaborateurs l'ont abandonné. Donc il sait de quoi il parle, lui aussi. Hein. Alors j'en arrive au point que Jésus est le champion par excellence. Il est le précurseur des enfants de Dieu plus que vainqueur. Il a accepté le combat. Il s'est battu avec le père du désespoir, du mensonge, de la destruction. Il a fallu connaître la croix pour connaître la victoire et l'offrir à l'humanité. Il lui a fallu connaître la mort pour connaître la résurrection et offrir la vie éternelle. Souvenons-nous toujours que l'évangile a un prix. Il a coûté la vie au Fils de Dieu. La victoire de Jésus est au prix de blessures. Il était couronné d'épines avant d'être couronné de gloire. Il n'y a pas, chers amis, de victoire facile. Nous ne devons pas accepter un évangile de triomphalisme, victoire facile. Mais non plus, nous ne devons pas accepter un évangile de défaite, d'incrédulité, de médiocrité aussi. Christ est vivant. Il a réduit à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Il est sur le trône du vainqueur et il nous associe à sa victoire. Et il appelle ainsi une église de champions, pas de triomphalistes, mais pas de poltrons, des cœurs de champions prêts à surmonter les adversités. Des adversités, on en a eu dans nos vies et dans cette église aussi. Notre victoire a coûté la vie de Jésus, elle coûtera des douleurs, des oppositions, je suis désolé de dire ça, des douleurs, des oppositions, des déceptions, des incompréhensions. Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Bon, ça c'est la première partie de mon message. Deuxième partie, les facteurs pour devenir plus que vainqueur. Voilà, on va voir ensemble 10 facteurs pour devenir plus que vainqueur, avoir un cœur de champion, des facteurs de résilience. D'accord? Et je vais prier maintenant pour que le Saint-Esprit, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour que tu fasses de nous vraiment ces cœurs de champions et tu montres là, tu nous invites l'un et l'autre à capter quelque chose là qui manquait parmi ces facteurs, quelque chose qu'on va saisir comme une clé ce matin, comme une clé pour devenir plus fort en toi, pour saisir cet appel à être plus que vainqueur. Amen. Premier facteur, soyons toujours des gens qui ont un rêve de foi et d'espérance. D'accord? S'il y a quelque chose de négatif un peu dans dire faut pas rêver, il y a aussi un côté positif. Entretenir, si on n'a plus de rêve, c'est pas bon. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un qui rêve, qui voit grand, parce qu'il a un grand Dieu, tout simplement. Donc entretenir un rêve de foi et d'espérance, en ayant une bonne image de Dieu, bien entendu, l'image d'un Dieu grand, beau, une bonne image de ce qu'on peut faire, et en confessant, proclamant la vérité. Ça, ça va nous aider. Hein. C'est pour ça que c'est important dans les cultes qu'on ne soit pas centré sur nous, mais qu'on soit bien centré sur Dieu, qu'on proclame la vérité de Dieu dans la prière. Proclamer la parole de Dieu, la vérité. Et c'est là que nos vérités à nous, je ne peux pas, je suis nul, ne tiennent pas, hein, face à la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à ce que dit la parole de Dieu. Entretenir un rêve de foi et d'espérance. Premier facteur. Deuxième, l'accueil d'un groupe solidaire. C'est le corps, c'est l'Église, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément l'Église, ce n'est pas seulement le petit noyau, par exemple, pour nous, source de vie ou Wavrin, mais ça peut être d'autres aussi. Hein. Mais l'accueil d'un groupe solidaire. Devenir chrétien, c'est s'attacher à Dieu par le moyen de la foi, c'est s'attacher aux autres par le moyen de la communion. Dans ce groupe, on est nourri par l'âme des autres. Et on expérimente la consolation, mais pas seulement la consolation. On apprend à être vulnérable. Et on apprend à être coaché quelquefois, hein, par d'autres qui ont plus d'expérience que nous. Il nous faut chercher à construire des relations durables. D'accord ? L'accueil d'un groupe solidaire a toujours été un facteur de résilience. Un facteur pour rebondir, pour être plus que vainqueur. Pensons à ce verset des Proverbes qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Quel bon sens. « Celui qui se tient à l'écart cherche celui, ce qui lui plaît. » Parfois, on peut trouver des bons motifs spirituels, mais ce n'est pas toujours très spirituel. Hein. Troisième facteur, la créativité artistique. Ça peut être surprenant, hein, ça. Ça peut être surprenant. Et pourtant, je lis là un exemple. Dans les camps du Vietnam, des sportifs musclés arrivaient parmi les prisonniers. Oh là là! Les prisonniers. Bon. Et aussi de frêles poètes, chanteurs et écrivains. On aurait pu croire que les vedettes de sport allaient pouvoir endurer les conditions de vie imposées par les tortionnaires et que les petits artistes allaient craquer les premiers. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. Les grands sportifs étaient habitués à se faire dorloter par des massages quotidiens. Ils prenaient des suppléments diététiques et des vitamines qui les maintenaient dans un état de forme artificielle. Dépourvus de tout ce cadre-là, ils avaient faim, perdaient leur force, leur corps avait du mal à s'adapter aux changements drastiques. La léthargie physique commençait à s'abattre sur leur état d'âme et ils ont été les premiers à craquer. Les artistes, eux, avaient un pouvoir d'évasion par leur créativité. Alors que les conditions de vie autour d'eux étaient horribles, ils se réfugiaient dans le monde de leurs chansons, de leur poésie. Les artistes puisent une force dans la création d'un monde plus beau que celui dans lequel ils se trouvent parfois. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir à l'importance des artistes chrétiens, l'importance d'encourager ce domaine. D'accord ? David a composé dans beaucoup de circonstances d'adversité. C'était un chantre, hein. Et cela l'a beaucoup aidé. Donc j'ai déjà cité deux facteurs, ou trois. Trois, hein, entretenir un rêve de foi et d'espérance, l'accueil d'un groupe solidaire, la créativité artistique. Quatre, raconter son histoire. Raconter son histoire. Ou dit autrement, écrire pour exister. Quand on raconte son passé, on le reconstruit. Et il y a Job qui a cette parole qui a dit « Oh, si mes paroles, je voudrais que mes paroles soient écrites, Job. » Il ressentait bien que c'était un facteur de résilience. Ne pas exprimer la souffrance clairement, suscite des problèmes. Et souvent une expression embrouillée. Ceux qui n'ont pas pu libérer et exprimer leur souffrance, souvent ils ont une expression embrouillée. Devenons des personnes résilientes, des plus que vainqueurs, en acceptant de raconter notre histoire. On peut le raconter par l'écriture, par le chant, par la peinture. On rejoint le point précédent aussi. Hein. Autre facteur, l'humour et la joie. C'est un facteur de résilience. L'humour et la joie. Et l'auteur raconte qu'il était une fois, je ne sais plus, dans une réunion de pasteurs qui avaient vécu les massacres au Rwanda. Des gens qui avaient vu des horreurs. Et il était surpris de l'humour qu'ils avaient à certains moments. Et ces pasteurs disaient, mais si on n'avait pas l'humour, c'était fini, quoi. Ce serait fini. On ne pourrait pas tenir, ouais, si on n'a pas un peu d'humour. L'humour montre un cœur gracieux envers soi-même. Quand on rit de soi, ça veut dire qu'on a un cœur gracieux envers soi-même. Hein? Le mot humour vient de la même racine qu'humilité. Rire de soi est un moyen de vivre heureux. Rire des autres est dangereux. C'est pas la même chose. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Et moi, cette année 2010, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne veux pas que l'ennemi vole ma joie. Et parce que je suis convaincu que c'est un facteur de résilience, donc je ne veux pas que l'ennemi vole ma joie. Ça m'est arrivé dimanche dernier, j'étais pas très 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 bien, mais voilà, ça n'a pas duré plus de 24 heures. J'ai demandé une onction d'huile à net, et on va pas rester là. Hein. J'ai pris position et floum, c'est reparti. L'humour et la joie. Sixième facteur, on arrive, voyez, on approche. Hein. La reconstruction de son image et de sa responsabilité, ça certainement... Colette a dû vous en parler dans ses messages qu'elle a dû donner. Hein. Mais l'importance de retrouver une bonne image ou une perception de soi, c'est un facteur capital, c'est clair. Le manque de respect de soi est un boulet. Des paroles dévalorisantes ont pu ainsi former une mentalité de perdant. Hein. Donc il nous faut retrouver ce que Dieu dit de nous. C'est ça qui est important. On a pu avoir peut-être des paroles très dévalorisantes, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit de nous? C'est ça qui doit l'emporter. On est né par la volonté de Dieu pour une destinée qu'il a préparée d'avance. Alors, il faut aussi prendre la responsabilité de notre vie. Nous ne pouvons pas changer bien des circonstances. Mais nous avons le choix de nos réactions aux circonstances. Est-ce que vous comprenez? Oui. Comme le dimanche de Pâques, je vous dis, on a le choix, face, dans un moment où on constate une grande faiblesse, d'écouter la voix de l'ennemi, dire, ok, je suis disqualifié, je suis nul, je vois rien, je me cache donc, je vais me cacher. Ou de dire, je suis faible, mais c'est une opportunité pour que la puissance de Dieu va se manifester. Allons-nous rester dans notre propre mesure ou allons-nous en sortir pour rejoindre l'intention de Dieu pour une vie au large? Les cœurs de champions reconstruisent une image d'eux-mêmes dont ils sont fiers. Ils assument la responsabilité de leur vie, de leur choix et de leur bonheur. La résilience rend aux humains une dignité qui les élève. D'accord? Oui. Voilà, on l'a lu tout à l'heure. Ouais. Septième facteur, un mot qui résonne pas très bien, c'est pas très agréable à entendre, la discipline. La discipline. C'est un mot qui résonne négativement. Et pourtant, le mot grec est sophrénismos, qui signifie former une santé mentale en produisant des bonnes habitudes. C'est déjà un peu plus positif. Hein? Voilà. Former une santé mentale en produisant des bonnes habitudes. Et là, j'ai encore un témoignage de deux otages où ça les a aidés. Roger Hoc était un otage, hein, je ne sais plus en quel endroit, au Liban. Il raconte dans son livre « Otage à Beyrouth » qu'il a gardé une santé mentale durant sa longue captivité en entretenant des habitudes saines chaque jour. Il faisait de l'exercice des pompes, il n'y avait pas de place pour faire autre chose. Et chaque jour, il lisait la Bible qu'on lui avait remise. Tu dis ? Oui, voilà. Voilà, vous voyez ? Ingrid Betancourt qui a été captive en Colombie durant des années. Un de ses gardiens s'était converti à Jésus et l'un et l'autre ont prié chaque jour ensemble et lu leur Bible. Il disait, ce gardien, combien il apprenait de la prière du cœur d'Ingrid et elle témoignait combien elle découvrait la parole de Dieu avec cet homme. Ce rendez-vous quotidien servit de boussole à Ingrid alors que ses pensées ou ses émotions pouvaient se perdre parfois. La discipline et la régularité l'ont gardée sur le plan de la santé mentale. Huitième facteur. Ça vaudrait le coup, par la suite peut-être en groupe de maison par exemple, de voir un facteur par semaine. De s'arrêter, voilà. Par exemple, ça c'est une idée que je lance comme ça, mais bon. Gagner en terrain adverse, c'est-à-dire au milieu des critiques et des paroles négatives qui peuvent être dites sur nous. De gagner là, dans ces moments-là. Apprendre à tourner en motivation supplémentaire les critiques ou les calomnies et les attaques. Et Philippe Jauré parle du principe du compost, vous savez ? Laisser des semences de pourriture devenir des semences de croissance. C'est le principe du compost. Faire comme Ézéchias, qui reçoit des insultes de la part du roi, je ne sais plus lequel, mais d'Assyrie, je crois. Ouais. Des insultes à Dieu, des insultes pour lui. Et il va trouver Dieu et il déploie toute cette lettre qu'il a devant Dieu. Il applique le principe du compost, une semence de pourriture, et suite à ce cœur à cœur qu'il a avec Dieu, et après avoir déversé tout ce qu'il avait eu, eh bien, Dieu l'a relevé et lui a donné la victoire. Il a repris courage. Continuons à servir au milieu des critiques et des calomnies. Vous savez, les hommes politiques supportent énormément, finalement. Moi, je ne sais pas comment ils font. Certains, ils reçoivent tellement de... Non, mais ils n'ont peut-être pas tous les raisons, hein, attention, je ne dis pas ça, mais moi, personnellement, j'admire quand même leur capacité de plusieurs de résistance. Ils ont été formés peut-être pour ça aussi, hein, je ne sais pas, j'en sais rien. Bon, ouais, bon, peut-être, mais oui, ce n'est pas forcément des modèles. Mais ils ont une capacité de résistance, je trouve, ouais. Continuons à servir au milieu des critiques, des calomnies, sans laisser aucune injure nous affecter, aucune parole de destruction nous atteindre dans la foi en celui qui nous a relevé de la honte pour nous faire asseoir sur notre trône. Neuvième facteur qui est très proche de celui-là, utiliser notre douleur comme un moteur de compassion. Utiliser notre douleur comme un moteur de compassion. C'est-à-dire que dans ce que je vis, et à cause de ce que je vis, je serai le plus qualifié pour aller secourir des personnes qui auront passé par la même chose que moi. D'accord ? Donc utiliser notre douleur comme un moteur de compassion. Qu'est-ce qu'on va faire, chers amis, des blessures de notre vie? On peut les fuir, les avaler, et rester avec toute notre vie avec une fragilité stérile, mais on peut les racheter en les utilisant comme des sources de motivation pour servir ceux qui vivent dans les souffrances que nous avons connues. C'est en servant aussi que nous apprenons, développons un cœur de champion, d'accord? Donc une église de cœur de champion, c'est une église de serviteurs et de servantes. On a déjà parlé là-dessus. Hein. D'accord, j'espère que nous avons chacun cette ambition d'être un serviteur, une servante. Le dernier facteur, le facteur Emmanuel, bien sûr, Dieu avec nous. Pour tous les facteurs qui précèdent, qu'on a cités, c'est nous qui faisons quelque chose. Hein? Et c'est des choses même que des non-croyants peuvent saisir. Mais là, ce dernier facteur, c'est pas nous qui travaillons, c'est Dieu qui opère là. C'est lui qui prend en charge, c'est lui qui agit, c'est lui qui s'implique et renouvelle. Donc ce facteur Emmanuel, c'est le plus évidemment pour les croyants. Extraordinaire, énorme. Et il ne le fait bien sûr que pour ceux qui l'invitent. Il faut l'inviter. Il est un père qui pardonne, qui accueille, un sauveur qui paye le prix de nos fautes, un esprit qui nous redonne la vie. Personne ne nous aime autant et voudrait nous faire réussir autant que Dieu. Personne. Alors, on a vraiment le meilleur coach là. Conclusion. Oui, oui, c'est sûr. Ouais, le 10, il faudrait le passer en 1. Oui, oui, c'est clair. Enfin, certains considèrent que souvent le dernier point, c'est le plus important, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr. Ouais. 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 Tout s'accomplit. Ouais. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des gagnants. Donc il nous faut quitter tout mode de pensée défaitiste, sans foi. Nous sommes un enfant de Dieu, un humain créé de peu inférieur à Dieu. Nos capacités sont immenses et réelles. Après son attentat, Meshi Diak, la journaliste libanaise, a continué à mettre sa confiance en Dieu. Elle connaît donc, elle, le facteur Emmanuel. Elle a dit, « Je sais que je vais y arriver. » Dieu ne me lâchera pas. Je suis bien contente de croire en Dieu et ceux qui s'en passent ne savent pas ce qu'ils ratent. Ouais. De nos moments de rejet naissent des moments de plus grande destinée. Colette avait parlé du rejet récemment. Quand Joseph est rejeté par ses frères, une plus grande destinée s'ouvre à lui. Quand Jésus est rejeté par Israël, une destinée de Messie des nations s'ouvre à lui. L'opinion des autres personnes ne détermine pas votre potentiel. Les blessures de votre passé ne paralysent pas votre avenir. Seule votre attitude le peut. Vos attitudes peuvent paralyser ou décupler vos aptitudes. Votre vie n'est pas comme un pénitencier aux tâches répétitives et ennuyeuses. La bonne nouvelle, c'est que chaque être humain peut être régénéré pour une destinée réussie. Il s'agit d'une vie au développement sans limite. Vous irez au bout de vos rêves pour une aventure de foi. Au fur et à mesure que vous rencontrerez des obstacles, vous les foulerez aux pieds, ils deviendront les marches de votre victoire. Tout en haut se trouvent les champions, ils seront célébrés dans l'éternité. Le ciel vous attend comme des champions. Amen. Amen. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à développer et à saisir tous ces facteurs et à comprendre et à saisir cet appel à être plus que vainqueur et à gagner dans l'adversité. Forge chacun d'entre nous, forge nos cœurs. Seigneur. Donne-nous de continuer la course. Rends-nous persévérants. Donne-nous de rebondir. Et donne-nous d'être les uns pour les autres aussi. Un peu comme des supporters, ouais. Donne-nous d'être de meilleurs supporters les uns des autres. De meilleurs supporters. On n'a pas toujours été bons supporters, mais on veut être meilleurs supporters. Donne-nous de creuser, Seigneur, ces vérités, de les vivre. Que nous soyons vraiment cette Église de plus que vainqueurs. Merci pour les exemples. En ce moment, Seigneur, sans cesse, tu nous donnes des exemples, comme pour nous parler. Merci pour l'exemple de cette journaliste libanaise. Incroyable. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de ton esprit en chacun d'entre nous, pour former ce cœur de champion, ce plus que vainqueur. Amen.